RCF.
Michel Quesnel, les rencontres que nous allons évoquer maintenant sont celles que Jésus fait au moment de la Passion ou juste avant la Passion. Ça commence par le lavement des pieds et on va évoquer jusqu'au bon larron, ce fameux voleur qui est crucifié à côté de Jésus. Il y a le bon et le mauvais larron. Ça, ce sont des scènes et des moments évidemment absolument centraux dans le parcours de Jésus puisqu'il précède sa mort.
Le lavement des pieds, c'est une scène fantastique, si j'ose dire, qui n'est racontée que par l'évangéliste Jean, d'ailleurs, hein, au chapitre 13 de Jean, au cours d'un repas, qui est un repas qui précède d'un jour, peut-être, la fête de la Pâque. Jésus va donner ses dernières instructions à ses disciples, parce qu'il sait maintenant que sa mort est proche, qui va être crucifié, puisque un homme du peuple comme Jésus était, quand il était massacré par les Romains, ça se passait comme ça, par le crucifiement. Et alors ce repas dans lequel Jésus va livrer toutes ses dernières consignes, si j'ose dire, commence par un geste totalement étonnant, puisqu'ils sont à table, ils sont sans doute allongés sur des divans, comme on mangeait dans les repas solennels à l'époque. Et lorsque on entrait chez quelqu'un pour un repas, il était habituel que un serviteur ou plutôt une servante de la maison vienne laver les pieds des convives pour qu'ils soient dans des conditions confortables pour le repas. Il n'y avait pas de chaussettes à l'époque. Soit on marchait pieds nus, soit on marchait dans des sandales. Et quand on arrivait chez quelqu'un, on avait les pieds pleins de poussière. Donc le lavement des pieds fait partie des gestes d'hospitalité élémentaires. Et voilà que Jésus, qui préside le repas, qui va être donc le repas au cours duquel il va livrer ses dernières consignes, commence par un geste qui n'a rien à voir avec son autorité de maître. Il va laver les pieds aux autres. Donc il se transforme en une jeune esclave ou une jeune gamine. Ce qui est tout à fait étonnant. Alors évidemment, les gens refusent, à commencer par Pierre. Non, tu ne me lavais pas les pieds, jamais, pas question. C'est normal. Pierre est celui qui a reconnu en Jésus le Messie à un moment clé de déroulement des évangiles. Et voilà que maintenant, celui-là va laver les pieds à ses disciples.
Il ne comprend plus rien.
Et absolument. Alors Jésus a une phrase assez fantastique. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. C'est-à-dire que finalement, si tu n'acceptes pas que je sois à ton service, il y a quelque chose entre toi et moi qui va être rompu. Pierre s'en étonne tout à fait, au point d'ailleurs qu'il va dire à ce moment-là, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Puisque tu as envie de te mettre à mon service, je suis totalement impur moi-même, donc j'ai besoin d'être entièrement purifié. Et Jésus va tirer de là le fait que dans la communauté chrétienne, l'autorité n'est pas une autorité de patron, c'est une autorité de serviteur. Et un peu plus tard, quand on verra effectivement des disciples comme Jacques et Jean vouloir occuper des bonnes places dans le royaume de Dieu, Jésus les rembarrera.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il leur exprimera que se comporter dans l'Église, quand on a des responsabilités dans l'Église, se comporter comme un patron, comme un chef, comme un roi, comme un général,
un prince,
ce n'est pas du tout ce dont l'Église a besoin.
Parce que Jacques et Jean se disputent pour savoir lequel sera le mieux placé auprès de Jésus.
Absolument. Et je pense, alors là, il y a une vraie question d'ailleurs, ça nous interroge fondamentalement dans nos façons de nous comporter en Église. Quand en Église catholique, on appelle un évêque Monseigneur, je suis désolé, je trouve que ce terme est totalement inadapté. Un évêque n'est pas un seigneur, un évêque est un serviteur des brebis qui sont dans son diocèse.
Mais certains tiennent beaucoup à ce titre.
J'en sais rien. Je sais qu'il y a des gens qui l'emploient parmi les fidèles. Je crois qu'il y a de moins en moins d'évêques qui sont attachés à ce titre-là. Parce qu'ils sont suffisamment nourris d'évangile pour savoir que c'est pas comme ça que l'autorité s'exerce dans l'Église. C'est d'abord une autorité de service. Ça, c'est très fondamental. Et Jésus le manifeste, justement, par ce geste du lavement des pieds. Et alors après, non seulement lui a lavé les pieds à ses disciples, et il commente en disant, si moi j'ai fait comme cela, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. C'est-à-dire que finalement, le service que Jésus rend, c'est un modèle pour les services que nous devons nous rendre les uns aux autres. Et si dans l'Église, nous ne sommes pas les uns au service des autres, même quand on n'a pas de grosses responsabilités, eh bien, si on n'est pas au service les uns des autres, il y a quelque chose qui cloche. Et quand dans des communautés chrétiennes, les gens sont dans la bagarre et non pas dans le service mutuel, il y a un contre-témoignage fantastique. Et je crois vraiment que là, Jésus met en cause tout ce qui est de l'ordre du contre-témoignage.
Il y a une autre scène extraordinaire, Michel Quesnel, dans les évangiles, il y en a beaucoup, hein, mais là c'est une scène qui nous est relatée dans le chapitre 23 de l'évangile de Luc. Ça concerne un homme, un des deux hommes qui est crucifié de part et d'autre de Jésus.
Effectivement, c'est une scène qui est propre à Luc. Les autres évangiles disent bien que Jésus a été crucifié entre deux malfaiteurs. Donc il y a trois personnes qui sont crucifiées en même temps. Mais dans l'évangile de Luc, il y a les voleurs qui sont crucifiés en même temps que lui, prennent la parole. Il y en a un qui lui dit « Mais si tu es le Messie, sauve-toi et sauve-nous avec !» Donc finalement, c'est une tentation que Jésus fasse usage de son pouvoir pour finalement les rendre à la vie, une vie qui n'est pas une vie brillante, puisque sont des voleurs l'un et l'autre.
Ça rappelle les tentations au désert.
Voilà, tout à fait.
Sauve-toi toi-même.
C'est tout à fait le même genre de tentation. Il joue le rôle que jouait le démon dans les tentations au désert. Alors, cet homme donc, qui dit à Jésus « Sauve-toi toi-même et nous avec » est réprimandé par l'autre larron, l'autre voleur, qui est de l'autre côté de Jésus. Il fait des reproches au premier en lui disant « Nous avons, nous, ce que nous méritons. Mais toi, Jésus, c'est une autre situation. Lui n'a rien fait de mal. » Il a conscience que finalement, le crucifixion de Jésus est un assassinat politique d'un homme qui n'a rien fait de mal, alors que eux, au contraire, sont des bandits.
C'est une injustice.
Une injustice flagrante.
Énorme.
Alors, il fait des reproches au premier. Il s'adresse à Jésus en disant « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Souviens-toi de moi. Nous sommes crucifiés en même temps que toi. Tu fais attention à nous. Et donc, je te demande effectivement quelque chose qui est de l'ordre du pardon pour ce que j'ai fait et qui est de l'ordre de la proximité avec toi. Nous sommes proches l'un de l'autre sur la croix, mais j'espère que nous serons proches autrement et que ce sera pas moi le patron, au contraire, ce sera toi, ton royaume. Tu seras le roi, moi je serai un de tes sujets, considère-moi comme un de tes loyaux sujets. » Alors Jésus a cette formule fantastique. « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Aujourd'hui, c'est-à-dire que Jésus a conscience que après sa mort, il ne sera pas dans la disparition, dans le néant, il sera toujours vivant, dans un autre monde, le paradis, où il sera lui-même, et il dit à cet homme qu'il sera avec lui. Et à travers cela, Jésus annonce la résurrection pour lui-même, et également la résurrection pour cet homme. C'est-à-dire qu'il y a un espoir qui s'ouvre dans l'ensemble des évangiles. Je n'ai pas traité de rencontre de Jésus ressuscité dans mon livre. Parce que finalement, quand il se manifeste ressuscité, il est déjà lui-même dans un autre monde. Mais à travers ce qu'il dit au bon larron, il annonce quand même la résurrection et on sera le témoin le dimanche de Pâques.
Alors Michel Quesnel, il y a une autre forme, un autre genre de rencontre que vous évoquez dans le livre. C'est les rencontres de Jésus avec son Père à travers la prière. Vous dites que là aussi, il y a une rencontre, mais qu'est-ce qu'on peut en dire? Par définition, on ne sait pas ce que Jésus dit à son Père. Il enseigne ses disciples qui lui demandent comment on fait pour prier, ça d'accord, le Notre Père. Enfin, si ce qui se passe entre Jésus et Dieu, on en sait quelque chose?
Alors, je ne sais pas si Jésus était d'abord celui qui parle à son Père. C'est peut-être d'abord celui qui écoute. Il y a un très beau passage dans l'évangile de Marc. Après une journée un peu triomphale à Capharnaüm, où Jésus a guéri plein de monde, les gens se sont rués à sa suite, etc. Il a été la coqueluche, si j'ose dire, de la ville. La nuit suivante, Jésus a besoin de digérer cela. Et alors, en pleine nuit, il se lève, quitte la ville, va dans un endroit où il est solitaire, et là, il est en relation avec son père. Et c'est là qu'il découvre que finalement, le succès qu'il rencontre à Capharnaüm est un succès ambigu. Parce que finalement, si on se contente d'être là où on réussit, eh bien, je pense qu'on est dupe du succès dont on est porteur. Alors, la réflexion qu'il conduit, eh bien, l'amène à changer d'avis et à dire à ses disciples qu'il le retrouve après l'avoir cherché, il faut que nous partions d'ici pour que je prêche l'évangile ailleurs. Parce que d'autres villages aussi ont besoin de m'entendre. Et je pense que Jésus parlait sans doute à son père, oui, mais il était aussi beaucoup à l'écoute de son père. Et je pense que dans la prière, nous ne sommes pas simplement ceux qui parlons, nous sommes aussi ceux qui entendons et qui écoutons.
En tout cas, la relation se dit à travers ces temps d'écoute et d'échange, quelle qu'en soit la forme, y compris aujourd'hui encore.
Oui, moi j'emploie beaucoup le mot intimité pour la prière. Et dans une intimité, quand on est intime avec quelqu'un, finalement, la parole circule dans les deux sens. On parle et on écoute. Et il faut être autant écoutant que locuteur.
À demain pour conclure ces entretiens, Michel Quesnel.
Entendu.
Merci beaucoup.